Au XIXe siècle, la recherche biblique s'était un peu transformée en recherche de mythologie, de contes, d'histoires pour enfants. Et c'est le père Lagrange, un père dominicain, qui s'est décidé de retourner aux sources de ce texte, c'est-à-dire d'allier le texte avec le contexte dans lequel la Bible a été forgée. Et c'est ce qui l'a amené à aller en Terre Sainte. Le père Lagrange est né en 1855 à Bourg-en-Bresse. Il a fait des études, notamment de Bible, en Autriche, à Vienne. Et puis, en 1890, il est parti pour Jérusalem. Et là, il a fondé, le 15 novembre 1890, l'école biblique. Sans rêver de ce que pouvait être un jour cette école, sinon une maison où on travaille le texte biblique et surtout où l'on prie. Ce ne sera pas seulement un travail de recherche littéraire, linguistique, historique, mais ça sera aussi la dimension peut-être essentielle, celle de la prière, un texte qui va à l'âme de l'homme.
L'école biblique donc s'inscrit dans toute une tendance qui voit l'émergence au XIXe siècle de l'histoire des religions, des sciences des religions, les différentes écoles de la pensée qu'on a à ce sujet. Et s'inscrit aussi dans un but de recherche en France, est né donc avec le nom d'école pratique d'études bibliques. Quelle était sa spécificité méthodologique, Père Marcel ?
À l'époque, c'était tout simplement de reprendre le texte et de quand même essayer de découvrir sa dimension historique, de voir comment ce texte s'enracine à l'époque où on dit qu'il a été écrit, et donc de revenir aux sources du texte.
Quels sont les développements successifs, les grands noms de l'école biblique ?
Lagrange a eu beaucoup de misère dans sa vie parce qu'on ne comprenait pas trop bien ce projet, on ne comprenait pas ce qu'il voulait faire, pourquoi ce texte devait être étudié alors que le sens était obvious, il suffisait de lire et on comprenait. Et voilà quelqu'un qui dit ce n'est pas toujours aussi évident, il faut l'étudier. Il faut l'étudier avec les langues de son temps, avec l'histoire de son temps. Et donc, devant une telle méthode ou approche, le père a eu beaucoup de misère. Il a été condamné à droite, à gauche, arrêté d'un publier, arrêté d'instruire. Et malgré tout cela, il a continué son travail, acceptant tout ce qu'on lui infligeait, sûr aussi qu'il était sur la bonne voie. Et donc, avec une audace extraordinaire, l'école fondée en 1890 connaît déjà, en 1892, la publication d'une revue qui existe encore aujourd'hui sous le titre de Revue biblique. Et donc, c'était l'instrument de diffusion de la recherche à côté de quelques séries de livres. Il y avait donc aussi ces diffusions trimestrielle des recherches des uns et des autres sur l'apport biblique.
Étudier la Bible en étudiant donc le texte et aussi le contexte. Mais maintenant, quel est le rôle qui a joué cette école biblique et archéologique, justement dans l'archéologie ?
Au point de départ, à cette époque-là, l'archéologie était quelque chose de tout à fait différent de ce que l'on fait aujourd'hui. C'était localisé des faits, de pouvoir dire, ben oui, ça c'est vraiment Bethléem, ça c'est vraiment tel et tel endroit mentionné dans la Bible. Et ce n'est que plus tard qu'on est allé faire ces fouilles laborieuses que l'on connaît aujourd'hui avec analyse de la poterie, analyse de la terre. Mais donc, dès le début, les pères, armés de leur appareil photographique, qui était, il faut dire, avec des plaques de verre, donc hyper fragiles, ces pères sont sortis dans la nature et ont photographié tout ce qu'ils pouvaient encore trouver d'existant, ont fait des relevés de toutes les inscriptions qui se trouvaient encore dans le pays. Donc, au point de départ, cette archéologie était surtout une collection, sauvée, tout ce qui pouvait encore être sauvé au point de vue monument. Et la grande fouille qui a distingué l'école biblique, c'est celle de Qumran. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y y a cette histoire des bergers qui, près de la mer Morte, ont découvert un trou et là-dedans, on a découvert les manuscrits, qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits de Qumran ou bien les manuscrits de la mer Morte. Et cela a été évidemment une énorme découverte pour la nouveauté de tout ce qu'il y avait là-dedans. Nouveauté au point de vue texte biblique. C'est non pas qu'on a trouvé des nouveaux textes bibliques, mais on a pu constater à quel point le texte biblique était stable, qu'il a très peu varié au cours des âges. Alors qu'on pourrait s'attendre pour un texte qui a été copié et recopié de multiples variations, au contraire, Qumran et puis plus tard le Codex d'Alep ont montré que ce texte était très stable parce que c'est un texte saint, vénéré, et que l'homme n'avait pas le droit de l'altérer. Et on a aussi découvert d'autres textes d'un groupe de gens que quelques-uns appellent les Esséniens et qui ont écrit leurs propres textes, textes qu'on dit sectaires de leur secte à eux. Et cela aussi était plus qu'important parce que cela a montré la diversité de ce qui se passait à l'époque du Christ sur la scène religieuse juive en Terre Sainte. Alors que, bon, on savait, les publicains, les pharisiens, c'est dans la Bible, mais on n'en savait pas beaucoup plus. Grâce à ces textes Qumran, on a appris un peu mieux quel était ce milieu dans lequel a baigné l'enseignement du Christ.
Quelle a été la contribution de l'école biblique et archéologique française au domaine de l'assyriologie, de l'égyptologie et des autres sciences de l'Orient ancien ?
Ces deux domaines qui peuvent paraître loin de la Bible, mais qui font partie des pays de la Bible. Il y a le centre, le noyau, qui est, on pourrait dire, Jérusalem, l'histoire sainte, mais autour de cela, il y a eu des populations beaucoup plus importantes et beaucoup plus fortes que les pays d'Israël, et c'est la Mésopotamie et l'Égypte. Alors ces pays, on les a découverts progressivement. On voyait bien qu'ils étaient mentionnés dans la Bible, mais on connaissait encore mal leur langue, leur écriture, et il a fallu donc attendre pas mal de temps pour avancer dans cette connaissance. À l'école biblique, il y avait le père d'Orme, qui a fait beaucoup de recherches sur le monde mésopotamien, sur la connaissance de l'anthropologie de ces peuples. L'école biblique a toujours quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine, mais c'est un domaine qui est devenu autonome tellement il est important et qu'actuellement, même s'il y a des spécialistes, ce n'est pas tout à fait la direction que prend l'école biblique pour ses études. Il y a tellement à faire dans la Bible même que parfois on oublie un tout petit peu ce qui est autour. Mais il faut quand même mentionner que le peuple de Jérusalem a été déporté sous Nabucodonosor à Babylone et que cet exil, cette déportation a eu une influence majeure sur le peuple juif, sur la Bible, parce qu'il a été au contact de nouvelles traditions qui sont pénétrées dans la Bible, mais réciproquement aussi la Bible a influencé le monde mésopotamien. Donc c'est pour ça que maintenant seulement on découvre l'importance de connaître ces deux mondes simultanément. Non pas l'un tout seul, mais de voir que l'un a influencé l'autre et qu'il faut donc bien les connaître ensemble. Et la même chose peut être dit de l'Égypte. Et il y a l'exil en Égypte, la sortie d'Égypte, et puis tout au long de l'histoire, l'Égypte était le voisin séparé tout juste par le Sinaï, le voisin le plus immédiat d'Israël, et donc influence permanente de l'un sur l'autre. Très souvent plus des influences militaires que des influences intellectuelles. Mais malgré tout, la Bible, la sagesse égyptienne se retrouve aussi. Donc ces deux pays ont eu des influences réciproques sur la Bible.
Quel rôle a joué l'école biblique pour l'acceptation de la méthode historico-critique pour l'Église catholique ?
C'est l'école biblique, le père Lagrange, qui a été le grand promoteur de la méthode historico-critique et donc de voir les racines historiques que le texte biblique peut avoir. C'est donc un long travail de ne pas lire le texte un peu comme tombé du ciel, mais de toujours voir que peut-être il y a eu des influences antérieures et que ces influences se traduisent dans des textes beaucoup plus tardifs, mais qui sont vraiment présents dans ce texte.
Est-ce que vous avez des projets dans la recherche, plus en général ?
Il est évident que dans le monde des lettres, l'existence d'une bibliothèque est capitale. Et on connaît tous cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui a été brûlée malheureusement, mais qui recueillait tout ce qui avait été écrit dans le passé et qui permettait donc aux chercheurs de retourner aux sources. Et c'est pour ça les pères, dès qu'ils sont arrivés ici, ont constitué une bibliothèque et il faut le dire à leur crédit, tout l'argent dont ils disposaient allait dans l'achat de nouveaux livres. Ce n'est pas pour le plaisir de remplir des rayons de livres, mais c'est l'instrument de travail absolument indispensable pour maintenir la recherche. Quelqu'un croit avoir découvert quelque chose de neuf, ben il va le faire publier et donc on ne pourra plus passer devant sans avoir lu, avoir compris ce que cette personne a voulu dire, a cru apporter de neuf. Donc une bibliothèque, c'est un chemin obligatoire pour faire du travail scientifique. Et donc l'école biblique a toujours investi, continue d'investir dans les livres. Et là, pour quelques auditeurs, peut-être, il faut faire une parenthèse, les uns diront, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui où il y a l'informatique, où tout cela se présente autrement par l'Internet et ainsi de suite. Il est possible que les choses changeront dramatiquement dans l'avenir en ce qui concerne l'usage de livres sur papier. Mais enfin, en attendant, c'est quand même ce qu'il y a de plus accessible pour le chercheur de feuilleter les pages, de revenir en arrière pour retrouver quelque chose. C'est pour dire que la bibliothèque est capitale et l'école biblique, grâce au père Rouzet, dispose d'un système de classification qui est aussi extraordinaire que possible, en ce sens que une fois qu'on sait à peu près où l'on travaille, si on se met à côté de cet endroit-là, on y trouve tous les livres relatifs à cette recherche. Et les livres sont dispersés dans toute la bibliothèque, mais les sujets de recherche sont bien centrés et permettent donc aux chercheurs, en peu de temps, d'être familiarisés avec cet outil de travail.
Père Marcel, vous êtes vraiment engagé dans un projet énorme que j'ai eu la possibilité de voir, aussi de constater. C'est le projet de la Bible dans ses traditions. Qui connaît l'école biblique dans le monde entier connaît la première grande réalisation, la Bible de Jérusalem, mais connaît peu ce deuxième chantier. Pouvez-vous nous en parler ?
Après la guerre de 1945, le père Chifflot des éditions du CERF avait demandé à l'école biblique de faire une Bible moderne, c'est-à-dire d'intégrer dans ses bas de page, dans ses notes, tout l'apport de la recherche biblique dans les dernières dizaines d'années. Donc, faire un instrument de travail à l'usage du chrétien éclairé. Et c'est cela la Bible de Jérusalem. Et nous sommes arrivés maintenant, 60 ans après, à une époque où il faut se poser la question, va-t-on continuer à améliorer cette Bible de Jérusalem, et elle le mérite et elle en a besoin parce que la science avance, ou essaye-t-on de faire quelque chose de neuf? Et c'est là, après de longues réflexions, nous sommes arrivés à l'idée de faire un outil de travail pour la recherche biblique un peu différent, c'est-à-dire de ne pas avoir des notes continues, mais d'avoir des notes qui suivent une certaine grille. Et dans cette grille de notation, il y aura trois parties, celle qui concerne la linguistique, celle qui concerne l'histoire, la géographie, et enfin, la troisième partie, la plus importante, qui sera l'histoire de l'interprétation d'un texte donné. Donc vous avez par exemple le verset 3 du chapitre 1 de la Genèse. Sur ce verset 3, on analysera les mots en donnant peut-être l'étymologie de tel et tel mot. On fera l'analyse linguistique, quelle est sa fonction grammaticale dans le texte. Mais surtout, on donnera l'interprétation à travers les âges. Donc l'interprétation rabbinique de ce verset, l'interprétation des pères de l'Église, l'interprétation au Moyen-Âge et dans les époques qui suivent, à toutes ces époques, on choisira l'interprétation la plus topique et on la donnera. Et donc, ce sera l'histoire des traditions d'un texte donné. Voilà donc ce que nous entreprenons actuellement et nous pensons qu'un premier volume, qui sera donc une Bible de Jérusalem, mais avec des notes retravaillées selon une grille donnée, sera prêt dans quelques années.